Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 décembre 2024, mais nous sommes surtout le jour où le Bitcoin a passé les 100 000 $. Oui, alors c'est vrai, il fallait être levé très tôt ce matin si on voulait avoir la chance de voir le Bitcoin passer enfin la barre mythique des 100 000 $. Alors on nous l'avait prédit pour Noël, on ne savait pas trop quel Noël ça serait. Mais en tout cas maintenant, la réponse est connue. C'est pas tout à fait Noël, mais c'est le mois de Noël. Donc la date restera le 5 décembre 2024 ou le 4 selon le fuseau horaire. Bref, le Bitcoin est à 100 000, voire même un peu plus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à parler du reste, même si soudainement, tout a l'air beaucoup plus fade. Et puis en plus, il va falloir se fixer un nouvel objectif sur le Bitcoin, hein. Et c'est là que tous les goûts sont dans la nature. N'est-ce pas, Michael Saylor? N'est-ce pas, Katie Wood? On va donc commencer bien évidemment par le Bitcoin, puisqu'il faut surtout trouver une raison à la soudaine hausse de la crypto-monnaie. On va dire que c'est sûrement à cause de la nomination du remplaçant de Gary Gensler. Alors on savait depuis un bon moment que le patron de la SEC allait partir, mais on ne savait pas encore qui Trump allait mettre à sa place. Il y avait donc encore un petit doute, parce que connaissant le nouveau président américain, on pouvait s'attendre plus ou moins à tout, mais comme Hulk Hogan a refusé le poste, que Bernie Madoff est déjà mort et que Jordan Belfort demandait un trop gros salaire, eh bien on s'est finalement rabattu sur un type qui s'appelle Paul Atkins et qui est avocat de formation, fervent défenseur des crypto-monnaies évidemment, et qui a déjà bossé pour la SEC par le passé. Le choix de Trump est donc un choix surprenant, parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, eh bien Paul Atkins est ultra compétent, ce qui n'est pas forcément le cas des autres hommes ou femmes que Trump a nommés dans ses différents ministères, en tous les cas, parce que généralement ils ont plus le profil de quelqu'un qui a remporté une émission de télé-réalité ou qui est plus proche d'un Cyril Hanouna que d'un Einstein. Mais bon voilà, l'arrivée de Paul Atkins à la tête du gendarme boursier américain a donc immédiatement déclenché un démarrage haussier de la part du Bitcoin. Et à l'heure où je vous parle, eh bien la plus grosse crypto du monde se traite autour des 103 250 $. Que dire de plus, si ce n'est qu'on devrait parler que de ça principalement aujourd'hui, même s'il y a quand même pas mal d'autres choses à dire. Je vais donc me faire violence et on va attaquer avec le reste des choses à dire, même si la plupart des gens, à partir de cet instant dans la vidéo, sont partis pour vérifier leur compte Coinbase ou leur compte Swissquote pour savoir s'ils peuvent prendre leur retraite maintenant tout de suite. Donc il est plus que probable que je me retrouve a priori tout seul à parler pour la suite de cette vidéo. Donc hier soir, les marchés américains ont battu de nouveaux records d'altitude. Ce qu'il y a d'absolument génial avec ces nouveaux records d'altitude récurrents, puisqu'on a bientôt tous les jours, c'est que j'ai bientôt plus besoin de réécrire mes textes, puisque je vais reprendre la même phrase tous les matins, et que ça fait toujours ça de gagner dans l'écriture de cette vidéo, dans le scénario de la vidéo du matin. Toujours est-il qu'hier, le Dow Jones a terminé au-dessus des 45 000 et qu'à ce rythme-là, les 50 000 vont céder d'ici l'investiture de Trump. Le S&P 500 frise déjà les 6100 et le Nasdaq 100 s'envole à des sommets jamais vus dans l'histoire, bien aidé par le réveil des Magnificent Seven qui semblent avoir pris la décision de tout faire péter à l'approche de Noël. Alors actuellement, Amazon est au plus haut de tous les temps, Meta est au plus haut de tous les temps, Apple est au plus haut de tous les temps et le reste de la troupe a encore un peu de boulot. Mais la tech semble définitivement de retour, même si pour être honnête, elle n'avait pas franchement disparu des cartes géographiques. Et puis, force est de constater que le semi-conducteur index, qui me donnait des sueurs froides depuis quelques jours, je vous l'ai assez dit et répété, a enfin réussi à redécoller un tout petit peu, s'éloignant des niveaux critiques des supports qui avaient l'air quand même un tout petit peu préoccupant. L'indice prenait 1,7% hier soir. Et il faut dire qu'hier, surtout Marvel, donc pas les Avengers, mais la société de circuits intégrés, a publié des chiffres trimestriels au-dessus des attentes et a réviser ses attentes à la hausse en utilisant des mots comme trimestre exceptionnel. Alors avec ce genre de déclaration, le titre a immédiatement explosé de près de 23% et termine évidemment au plus haut de tous les temps et entraînant toute la tech avec lui. Ça, c'était pour la tech. Mais il faut aussi revenir un peu sur le sujet de la macro parce que hier, il y avait tout de même de quoi dire et de quoi renforcer encore un peu plus notre conviction comme quoi le marché met absolument tous ses espoirs sur ce que Trump va faire à partir de sa prise de pouvoir au mois de janvier. Et que tant que ses espoirs ne sont pas douchés par une nouvelle vraiment merdique, on ne baissera pas et on ne verra pas les mauvaises nouvelles. Et croyez-moi, vu le niveau de confiance et d'espoir actuel, j'imagine que la nouvelle merdique devra dépasser l'entendement et nous prendre vraiment à contre-pied. Et pour être carrément franc et transparent avec vous, je suis même pas certain que l'effondrement de la faille de San Andreas ou une bonne guerre atomique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud suffisent à faire broncher le marché et à le faire dévier de sa trajectoire verticale haussière. Hier soir, avant que l'on apprenne que Paul Atkins allait prendre les rênes de la SEC, il y avait 2-3 choses qui intéressaient le marché principalement, et les chiffres économiques sous la forme des chiffres de l'ADP, l'emploi ADP, et de l'ISM non manufacturier, et surtout l'interview de Jerome Powell dans une présentation, dans une séance organisée par le New York Times. Alors en ce qui concerne les chiffres de l'emploi ADP, dont tout le monde se fout pas mal en général, mais qui de temps en temps, parfois, donnent une tendance sur les chiffres des NFP qui sortent généralement 48 heures plus tard, eh bien les données qui ont été annoncées sont sorties en dessous des attentes, de l'ordre de 20 000 emplois créés en moins, et en plus, on a révisé les créations du mois dernier, parce qu'on avait compté 49 000 personnes de trop. Alors moi, je vous défie d'aligner 150 000 personnes devant vous et de les compter un par un, et de réussir à vous gourer 49 000 personnes. À moins d'être dyslexique, aveugle et complètement con, ça paraît impossible. Pourtant, ceux qui gèrent les chiffres de l'emploi version ADP, bah eux, ils ont réussi. De là à dire qu'ils sont dyslexiques, aveugles et complètement cons, il y a un pas que je ne m'autoriserai pas à franchir. Mais en tous les cas, il faut se féliciter parce que c'est un raté absolument fantastique. Encore une fois. Et puis après, il y avait aussi l'ISM non manufacturier qui, lui, est sorti en dessous des attentes. En résumé, on a donc deux chiffres qui sont en dessous des attentes et qui auraient tendance à laisser penser que l'économie pourrait, éventuellement peut-être, donner des signes de faiblesse. Mais le marché termine néanmoins au plus haut de tous les temps. Alors vous l'aurez compris, la question n'est pas de savoir si les chiffres sont bons ou mauvais, mais plutôt de savoir comment est-ce que l'on interprète les chiffres en question. En l'occurrence, comme nous nous sommes fait récemment amputer la partie de notre cerveau qui a peur et qui pense qu'un jour tout va se péter la gueule, on a très bien réagi en se disant que la Fed n'aurait pas d'autre choix que celui de baisser les taux en décembre, sans compter qu'avec la magie mise en place par Harry, Donald, Potter, Trump, l'économie devrait cartonner dès le 21 janvier 2025, sans faire remonter l'inflation, bien sûr. Et donc, logiquement, il ne sert à rien de déprimer sur des chiffres tout pourris qui ne sont que le reflet du passé et d'une politique débile menée jusque-là par un président qui ne sait plus faire la différence entre sa mère et sa femme, même si l'une est morte et pas l'autre. En résumé, si on parle de la macro hier, on peut dire rien à foutre des chiffres pas bons parce que on applique la méthode Coué de la pensée positive et tout va bien. Et puis alors ensuite, dans le sillage de tout ça, nous avons Jerome Powell qui a parlé. Et là encore, c'est pareil, question d'interprétation. Le patron de la Fed n'a pas lâché des montagnes d'informations hier soir, il faut être franc, mais il a plus ou moins laissé entendre que l'économie allait bien mieux qu'il y a 2 mois et que c'était quand même une toute petite surprise de son côté. Il a ensuite déclaré que la bonne santé de l'économie américaine l'autorisait à se montrer un peu plus prudent quant à l'assouplissement monétaire en cours. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, en français, ça veut dire qu'il ne veut pas trop baisser les taux trop vite au risque de tourner le temps à l'orage, de revenir à l'état sauvage, de sortir le loup de sa cage et de faire remonter l'inflation et d'allumer le feu dans l'économie. Présenté sous cet angle, il y avait de quoi se poser quelques questions et avoir quelques craintes. Mais que nenni, que nenni, encore une fois, grâce à l'amputation de cette partie inutile du cerveau qui gère la peur et qui vous empêche d'aller allumer une clope pendant que vous faites le plein de la voiture, bah on a quand même réussi à tirer le bon grain de livret en se disant
« Oui, Jérôme, il est prudent, mais il a dit que l'économie, elle allait mieux !»
Donc il fallait simplement acheter. Et c'est ce qu'on a fait. Et à voir la tournure que ça prend, eh bien je suis convaincu que si lors des NFP de vendredi, les chiffres sont catastrophiques, dans un sens ou dans l'autre, on dira quand même
« Oui, mais ça veut dire que l'inflation, elle va se calmer !»
Ou encore
« Oui, mais ça veut dire qu'il va baisser les taux !»
Et si c'est vraiment tout pourri et qu'on n'a pas de solution de sortie, il restera toujours et encore le fameux
« Oui, mais Trump, il va arriver en janvier et il va sauver le monde !»
Pour le reste, pendant que les USA se trouvaient des excuses pour monter, l'Europe n'avait même plus honte de montrer qu'il n'en avait plus rien à faire de la macro, de la géopolitique ou de la politique tout court. Il fallait juste être bullish et se convaincre convainc l'expulsion de Michel Barnier à la 93e minute sur une faute dans la surface de réparation était déjà largement dans les prix et que tout le monde s'en foutait comme de l'an 40. La France terminait même en hausse de 0,66% alors que la lame de la guillotine était déjà en train de tomber, et il restera donc à voir ce qu'il va se passer ce matin sur la dette française. Mais on a l'impression que tout le monde s'en tape cordialement et qu'on a déjà intégré que le pays est ingérable, ingouvernable, mais qu'ils vont quand même s'en sortir à un moment ou un autre. Reste simplement à savoir quand. Et pendant ce temps, l'Allemagne est déconnectée de la réalité et bat des records tous les jours, comme si les gens faisaient du feu pour brûler des euros tellement ils ne savent plus quoi en faire. Et surtout après avoir acheté au moins 4 Audi RS4 de 4 couleurs différentes par famille pour ne pas se lasser, pour en avoir une pour le lundi, une pour le jeudi, une pour le week-end, etc., etc. En résumé, les marchés cartonnent et se foutent totalement de ce qui pourrait ne pas aller dans le monde. ChatGPT a dit que tout allait bien se passer. Tout se passera bien, et en plus Trump est en train d'arriver avec son masque et son chapeau au galop sur Tornado pour venir défendre la veuve et la veuve, parce que des orphelins, ben, il n'y en aura plus sous Trump. Pour ce qui est du reste des sujets qui fâchent, on ne peut pas ne pas parler du merdier politique dans lequel se trouve la France. Alors on va essayer de faire simple. Barnier s'est fait virer, la France n'a plus que 2 mois de trésorerie devant elle et il va falloir trouver des solutions. Le grand voyageur qui leur sert de président va s'adresser à la nation ce soir pour la 219e fois de son mandat pour expliquer aux Français qu'ils sont débiles et que lui c'est le meilleur et c'est que c'est quand même lui qui a reconstruit Notre-Dame de Paris avec ses petits bras musclés de boxeur des rues. Le roi Macron devrait donc annoncer qu'il ne va pas démissionner et qu'il veut vite proposer un nouveau Premier ministre à la France. Plusieurs noms circulent déjà dans la liste, en haut de la liste. Il y a un type qui s'appelle François Bayrou. En résumé, pour vous dire, si on est prêt à nommer un mec comme François Bayrou à Matignon, je pense qu'on peut tout autant y nommer une huître pas fraîche, et comme Premier ministre, ça fera grosso modo le même effet. En attendant, la France est ingouvernable et l'ensemble des politiciens se rejettent la faute les uns sur les autres. Même la bande à Macron est incapable de faire le moindre mea culpa. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est que les marchés ont l'air de s'en tamponner le coquillard avec un couteau à beurre, à moins que le vent tourne ce matin. Bref, pour l'instant, la France a un président qui a un complexe de supériorité monstrueux, même plus grand que Notre-Dame de Paris, et si ça se trouve, ils vont avoir un Premier ministre de gauche. En gros, vivement 2027 qu'on y voit plus clair, en espérant que d'ici là, la France ne devienne pas la Grèce de la région. Dans les autres nouvelles du jour, on notera que Disney va augmenter son dividende de 33% après une année qu'il qualifie d'exceptionnelle. Il faut dire que leurs nouveaux tarifs doivent leur apporter un paquet de pognon, puisque je suis pas loin de penser que d'ici quelques mois, ils vont commencer à vous faire payer l'air que vous respirez dans leur parc d'attractions et sur leur paquebot de croisière, et aussi le temps que vous passerez dans les files d'attente. Il y a aussi le CEO de United Healthcare qui s'est fait descendre en pleine rue à New York hier. Alors les raisons de l'assassinat ne sont pas connues pour l'instant, mais c'est pas un acte au hasard. Clairement, le titre n'a pas bronché sur la nouvelle et il terminait même en haut, ça fait toujours plaisir. Et vu le système de l'assurance maladie aux États-Unis et à voir comment les assurés sont traités par les grandes compagnies d'assurance, on peut facilement imaginer au hasard, qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas super content et qui a décidé de régler ses factures personnellement. Et puis Stellantis, on reparle de Stellantis, la chasse post-Tavares semble arriver à son terme. Il semblerait, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'il se pourrait que le prochain patron de Stellantis s'appelle Luca Maestri, qui est l'actuel CFO de chez Apple. Alors je sais pas, comme ça à l'œil, partir d'Apple pour aller diriger Peugeot, Fiat, Citroën, je me demande si c'est la meilleure des choses à faire, même si dans le groupe il y a Ferrari. Et puis dans les petites nouvelles qui font toujours plaisir, les prix des denrées alimentaires au niveau mondial ont récemment atteint leur plus haut niveau en 18 mois. Comme les bourses, sauf que là, c'est un tout petit peu moins drôle. Et selon certains experts, la hausse des prix n'est pas terminée, mais que l'on se rassure parce qu'il paraît que c'est pas vraiment inflationniste. Et pour ce qui est aujourd'hui des chiffres du jour, il y aura les factory orders en Allemagne, les jobless claims aux États-Unis et la réunion de l'EPEP. Mais je vais être très franc avec vous, faut pas se leurrer, tout le monde a déjà les yeux fixés pour les chiffres de l'emploi de demain, donc on va se concentrer là-dessus. Mais en attendant, on va regarder les cours des cryptos pour voir si le BTC reste au-dessus des 100 000 $ et si l'on peut espérer le voir à 150 000 $ d'ici Noël, mais bon, de l'année prochaine, soyons raisonnables. Actuellement, les futurs sont en baisse de 0,07% et on attend avec impatience l'ouverture des futurs sur le CAC. Je vous rappelle aussi que ce soir à 20h, il y a Emmanuel Macron premier qui parlera à la télévision. Alors si vous avez rien de prévu, bah, trouvez vite quelque chose à faire pour ne pas avoir besoin de le voir queener encore une fois à 20h sur la télé française. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin au sujet du monde merveilleux de la finance et de la géopolitique mondiale. Moi, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et puis de mettre la cloche pour pouvoir avoir l'annonce de la prochaine vidéo qui aura lieu demain matin, plus ou moins à la même heure, au même endroit. Donc, soyez forts et à demain. Allez, bye bye.